おかしい、おかしい。キーキーキ
C'est lors de l'émission, j'ai l'impression que vous n'avez qu'à l'aéro.
Bonsoir, amélioration du climat des affaires en RDC, le premier ministre Adolfo Mosito a pour la première fois rencontré les opérateurs économiques lundi dernier. Quelle analyse faire de cette démarche? Participe à cette émission trois invités. François Nkekouye, analyste économique et expert en environnement. Monsieur Nkekouye, bonsoir.
Bonsoir, Alain Ronc.
Michel Ntoumouye, analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC. Monsieur Ntoumouye, bonsoir.
Bonsoir, Michel.
Katine Tsungani, analyste socio-économique, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vos réactions, elles, nous les avons déjà. Ibrahim Jay, de Bounia, en province orientale, améliorer le climat des affaires, c'est une bonne chose. Cependant, les hommes politiques congolais ne font rien sans qu'ils ne soient poussés par les autres. Je pense même qu'il n'y a pas une volonté politique dans l'amélioration du climat des affaires dans notre pays et il n'y aura pas une retombée politique positive de cette rencontre. Justin Moukouba de Bukavu, Kadutu, suivez-vous. Les rencontres entre le Premier ministre et les différentes couches de la population ont eu lieu. Ce n'est pas celle avec les opérateurs économiques qui donnerait un résultat attendu. Surtout que les deux parties sont à la base de la misère du peuple congolais. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Amélioration du climat des affaires oblige. Le Premier ministre a échangé lundi dernier avec les opérateurs économiques au siège de la Fédération des entreprises du Congo ici à Kinshasa. Cette descente d'Adolfo Mosito dans les installations de la FEC est une première depuis la création de cette corporation d'hommes d'affaires. L'occasion était indiquée pour les deux parties d'examiner les préoccupations du patronat contenues dans le mémorandum adressé au gouvernement central. D'autres détails avec Daniel Tambinzoni.
Dans leur mémo adressé au gouvernement de la République, les hommes d'affaires déplorent le climat économique malsain dans lequel ils évoluent. Et le président de la FEC n'est pas allé par le dos de la cuillère pour le rappeler au Premier ministre, Albert Yuma.
Nous avons évoqué le cas du secteur industriel local, que le gouvernement pourtant veut relancer au travers du projet de loi sur la relance de la production locale. Mais paradoxalement, sans préavis, sans concertation et sans évaluation préalable, votre décret a annulé les exonérations et allègements douaniers et fiscaux à la stupéfaction des opérateurs économiques.
La FEC n'avait pas que raison dans sa requête. Le ministre des Mines, par exemple, l'a dit pour des opérateurs miniers qui n'ont pas respecté les engagements de 2003, ce qui a au retour donné lieu à une nouvelle taxe. Le ministre Luzolo Bambi s'est chargé de la question de pollution de la justice et de la corruption telle que décriée par les opérateurs économiques.
La corruption a un corrupteur et un corrompu. Qui corrompt les magistrats? La plus grande victime de la corruption, c'est l'entrepreneur.
Vu la complexité de l'affaire, le Premier ministre a promis de poursuivre les discussions avec la FEC dans des cadres plus appropriés en vue de l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo.
Merci Daniel Tambinzoni, François Nkekouye, vous êtes analyste économique et expert en environnement. Comment vous avez reçu, accueilli cette première réunion entre le Premier ministre et les opérateurs économiques?
Oui, j'ai apprécié et salué la rencontre entre le Premier ministre et les opérateurs économiques parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'inédit. Dans la symbolique, c'était une très bonne chose que le Premier ministre se déplace pour rencontrer les opérateurs économiques. Mais est-ce que pour résoudre le problème des opérateurs économiques, fallait-il que le Premier ministre se déplace? Le simple fait de se déplacer ne résout pas les problèmes. D'autant plus que, comme l'a dit M. Albert Yuma, le climat des affaires au lieu de s'améliorer, s'est empiré entre-temps. Et les chapelets de plantes en cette matière sont tellement nombreux que l'on se demande ce que fait notre gouvernement à ce jour en rapport avec cette question. Et on se rend compte, parce que le Premier ministre s'est accompagné par les ministres sectoriels, que c'est comme s'il n'y a pas une coordination de l'action gouvernementale, au point que le ministre a reconnu le Premier ministre veut dire qu'il y a des actions à réaliser en concertation avec les uns et les autres, et qu'il doit les soumettre au Conseil des ministres, comme s'il n'était pas informé de ce qui s'est passé dans tous les secteurs. En revenant sur un secteur qui m'est très cher, le secteur minier, son excellence le ministre Kabeloulou dit qu'on est passé à des mesures contraignantes parce que les gens n'ont pas respecté les engagements. Moi, je dis par exemple, en ce qui concerne une de ces mesures phares, qui est bonne en soi, c'est-à-dire encourager les entreprises minières à transformer nos produits localement, ces mesures devaient d'abord être précédées par des mesures d'encadrement. On ne pouvait pas décréter la transformation des produits miniers. Il faut que l'opérateur économique se rende compte qu'il va faire des bénéfices en transformant. Et bien évidemment, il faut la fourniture de l'électricité. On ne peut pas transformer les minéraux par la simple volonté de le faire. Aujourd'hui, par exemple, il y a un grand déficit énergétique à ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord, du Sud-Kivu et du Maniema. Comment un opérateur travaillant dans le domaine de la cassiterite, du coltan ou de l'or dans ces provinces peut-il transformer ces minéraux au moment où on n'a pas suffisamment d'électricité? Et ce problème se pose également dans la province du Katanga ou la province orientale, où les entreprises voulant effectivement arriver à cela ont signé des accords avec la SNEL pour pouvoir, disons, préfinancer les renforcements des équipements de la SNEL, quitte à ce qu'ils soient rétrocédés. Je crois que le gouvernement doit fournir des efforts. Quand ils veulent prendre des mesures qui vont effectivement amener un plus à l'État congolais, ils doivent les faire précéder des mesures. Aujourd'hui, les opérateurs économiques congolais qui veulent aller dans la transformation ne bénéficient même pas des crédits des banques. Comment on peut faire l'industrie sans qu'il n'y ait des banques de développement dans un pays? Ça pose problème. Les problèmes concernant, par exemple, le secteur aéronautique congolais, c'est aberrant. Tout le monde voyage ceux qui voyagent à travers le monde se rendent compte que nos tarifs en matière de tarifs aériens sont des lois plus élevées que partout au monde. Pourquoi ne pas prendre des mesures incitatives dans ce domaine pour que nous puissions avoir le plus grand nombre de compagnies aériennes dans le pays, étant donné que les travaux d'infrastructure qui sont en train d'être réalisés ne permettent pas encore de relier tout le pays. Et donc, pour aller d'un point à un autre, on a encore besoin des avions. Donc, il faut quand même que le gouvernement précède par des mesures d'encadrement avant de commencer à sanctionner les opérateurs économiques.
Michel Soumoué, vous êtes analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises. Vous avez suivi François Zécouillé. Cette rencontre revêtait un grand caractère symbolique, mais au-delà de la symbolique, il pense que le climat des affaires s'est plutôt dégradé qu'amélioré.
Et oui, je ferai ce qu'on dit au départ, c'est-à-dire reconnaître d'abord que c'est un signe fort que le gouvernement se rapproche plutôt du secteur privé, que le Premier ministre soit déplacé de son bureau pour aller vers les opérateurs économiques. C'est un signe pacifique d'une grande ouverture de la part du gouvernement en faveur de l'économie nationale, ça il faut le reconnaître. Je ne peux pas mépriser ce signe-là, cette symbolique-là, comme vous le dites. Je voudrais dire que ce signe s'inscrit dans un processus général que je salue aussi, celui de, justement, d'entrer dans l'amélioration du climat d'affaires, parce que il y a eu déjà toute une batterie de textes réglementaires et légaux qui ont été pris au niveau des différents ministères du gouvernement pour essayer, tant soit peu, d'améliorer les conditions dans lesquelles les hommes des individus peuvent créer et développer leurs entreprises. Dans la foulée, je peux, par exemple, citer la charte, c'est le gouvernement, la charte de l'artisanat et de la citoyenne entreprise congolaise, que le gouvernement a signée avec les opérateurs économiques. et particulièrement ceux des investissements d'entreprise au Congo. Donc ça, ce sont des choses. Je peux citer également l'adhésion à l'OADA de notre pays, et il y a tout un tas d'autres mesures qui ont déjà été prises au niveau du gouvernement pour montrer sa bonne foi en faveur du développement de l'activité économique au Congo. Je salue ça. Mais je voudrais que ce soit sincère. Je voudrais que ce soit sincère, je voudrais pas que ce soit du folklore. C'est-à-dire juste des matures, enfin, excusez-moi, des apparences, des parades extérieures pour donner l'impression aux gens qu'on fait ce qu'on veut, ce que tout le monde attend qu'on fasse, mais dans le fond, on ne le fait pas, on ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que je crois qu'on appréhende mal la question. Quel est le problème de l'économie nationale? Quel est le problème que se posent les opérateurs économiques? Et quand on dit on veut améliorer le climat des affaires, de quelles affaires s'agit-il? S'agit-il de l'entrepreneuriat local, national, et de, pour la mise en valeur effective des ressources du potentiel si énorme de notre pays en faveur de la création de la richesse nationale qui puisse profiter à l'ensemble de la population? Ou s'agit-il de créer un système double vitesse et ouvrir des brèches à un enrichissement rapide de quelques individus, comme si c'était recruté dans un certain clan, et puis après on a l'impression que dans ce cas-ci, parce qu'on se rend compte dans ce pays qu'il y a des gens qui enrichissent trop vite, qui sont aussi des affaires. Il y a des gens qui sont pourvus abondamment. Et qui ne fait pas les affaires finalement dans ce gouvernement-là aussi? Tout le monde est dans les affaires également, il choisit des bonnes affaires. On voit ce qu'ils font comme investissement, on voit ce qu'ils font comme activité, relative de revenus pour eux-mêmes, par eux-mêmes, ils le font aussi. Ce sont des affaires. Mais de quelles affaires s'agit-il? De quel climat s'agit-il? De quelles conditions s'agit-il? Des questions qu'on ne te pose pas. Quel est le vrai problème? Qui est le véritable entrepreneur qui a besoin effectivement de stabilisation du climat d'affaires? Du climat d'affaires. Est-ce que c'est monsieur le ministre? Est-ce que monsieur le premier ministre? Ou est-ce qu'il s'agit vraiment de ce citoyen congolais qui a la bonne volonté de s'engager dans les affaires, d'investir, de développer une activité qui peut générer des revenus? S'agit-il vraiment des entrepreneurs au vrai sens du terme dans ce pays? On est en train de vouloir favoriser, ou est-ce qu'on est en train de vouloir favoriser juste le clash de quelques individus? C'est des questions qu'il faut se poser comme ça, c'est pas la réponse.
Merci.
Parce que la vraie entreprise dans ce pays se pose un problème. Je crois que mon collègue qui est intervenu avant moi l'a mentionné. L'opération économique congolaise se pose d'abord et avant tout la question de pouvoir savoir lever les fonds nécessaires à l'investissement ou à l'expansion de son activité économique. Il n'y a pas de crédit dans ce pays.
Merci.
Où sont les banques? La première question que vous avez, le premier problème que les gens se posent, c'est celui-là. Et quant à ce qui concerne le reste des problèmes, des conditions générales de l'exercice d'une activité économique dans ce pays, et nous avons le rapport de la Banque mondiale, du business, qui juge la façon dont le gouvernement se comporte par rapport aux opérateurs économiques.
Merci.
Ils ont mentionné le problème de la corruption dans ce pays. Il bat le plein. Est-ce que le gouvernement, quand le ministre en parle, quand le ministre de la justice parle de la corruption, est-ce qu'ils savent qu'ils sont aussi concernés par cette corruption-là? Est-ce qu'ils savent que dans ce gouvernement, dans ce pays, c'est le premier corrompu, c'est le gouvernement national, le gouvernement congolais? Les individus qui sont dans ce gouvernement-là, peuvent-ils nous dire sincèrement aujourd'hui, le fait qu'ils ont comme patrimoine aujourd'hui, ça sort de leur salaire?
C'est possible
qu'ils nous le disent? Quand vous voulez améliorer le climat d'affaires en disant on va éliminer la corruption, est-ce que vous pouvez, quelqu'un peut lever son bout de doigt et me dire que quand il est au gouvernement, il avait une maison et qu'aujourd'hui il en a 30, 40, 50?
Michel Sommeret, permettez que je vous arrête à ce niveau, hein, le temps de donner la parole à Katine Songani, et on vous retrouve dans un deuxième tour de table. Katine Songani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste socio-économique. Quelle est votre perception à vous, votre analyse de cette rencontre inédite que le Premier ministre a eue avec les opérateurs économiques?
Oui, je vous remercie pour l'invitation. Comme l'ont dit les prédécesseurs, cela procède d'une volonté du gouvernement d'aller dans le sens de résoudre, bien sûr, le problème que pose le climat économique. Mais vous me permettrez, parce que ça n'a pas été dit, de pouvoir, dans la mesure du possible, définir ce que c'est que le climat des affaires. Parce que cela permettrait, bien sûr, de circonscrire le sujet. Bon, dans mon entendement, le climat économique, c'est l'environnement dans lequel évolue ou compte évoluer ce que moi j'appelle des agents économiques. Alors, comme agent économique, la macroéconomie entend trois catégories de personnes physiques ou morales. Premièrement, l'État, deuxièmement, les ménages, troisièmement, les entreprises. Bon, au niveau des entreprises, il y a des entreprises publiques privées, il y a des entreprises nationales, transnationales, multinationales. Voilà ce que c'est que le climat des affaires. Alors maintenant, à mon avis, le climat des affaires ou l'environnement, ce selon, repose sur un certain nombre de piliers. Premièrement, le pilier est d'ordre social. Qu'est-ce qu'on entend par le pilier social? C'est-à-dire la société, les personnes dans lesquelles comptent évoluer les agents économiques que j'ai cités. Or, on se rend bien compte que notre société est caractérisée par une paupérisation à outrance. La société est pauvre, il y a des pensions sociales, les gens ne sont pas bien payés, et donc il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'assurance. Le deuxième pilier, c'est un pilier politique. Alors, on regarde la politique de ce pays, c'est d'abord la paix, c'est la sécurité, on va dire que cela est relatif. Peut-on dire que le pays est stable politiquement? Peut-on dire que, à l'issue des élections, le pays est sécurisé? Quand quelqu'un vient investir, pour prendre le cas des investisseurs internationaux, il tient compte de ce paramètre-là, la paix, la sécurité. Le troisième pilier est d'ordre administratif, c'est-à-dire les services de l'État. C'est ici que l'on parle de la corruption, des tracasseries, de la fraude. Mais la fonction publique elle-même n'a pas un effectif maîtrisé. Il y a pléthore, il n'y a pas de mécanisation, il y a peu de qualification, il y a une sous-motivation générale. Donc les fonctionnaires eux-mêmes n'étant pas motivés, vous comprenez que tout cela participe du climat des affaires. Le troisième, est un environnement économique. Bon, bien que le gouvernement ait pris quelques mesures de stabilité macroéconomique, c'est-à-dire on constate une relative stabilité des prix et de l'inflation qui me semble qu'il a été maîtrisée, mais la croissance a du mal à repartir. On se rend compte que notre économie est primaire, elle est peu diversifiée. Il y a absence de crédit à l'économie, il y a une extraversion difficile à nommer. Il y a la privatisation pratiquement de l'économie par une caste des étrangers, permettez-moi d'être un peu terre-à-terre, et il y a l'existence de plusieurs taxes, il y a des surtaxes, il y a des taxes à effet équivalent, il y a des taxes qu'on ne comprend pas, il y a des taxes parallèles, c'est incroyable la panoplie de taxes qui existent dans ce pays. Lorsque vous allez dédouaner une voiture, par exemple, à Matadi, vous n'avez pas l'idée de ce que vous payez comme taxe à Matadi. On vous dit qu'il n'y a que 4 services qui existent aux frontières, on vous les cite, l'hygiène, la douane, la quarantaine et le service de contrôle au CC. Mais on se rend compte qu'il y en a une vingtaine, une trentaine. Donc l'économie pose problème. Quatrièmement, l'aspect juridique. Nous avons une justice corrompue, totalement corrompue. L'impunité est chronique. Il y a l'opacité dans les chefs de certains investisseurs. On vous dit qu'ils investissent en RDC, mais ils sont immatriculés dans les îles Vierges. Et d'ailleurs, Global Witness en a parlé. Alors donc, il y a un problème. Et enfin, l'axe institutionnel. L'axe institutionnel est marqué par la bonne gouvernance. Or, on se rend compte que en RDC, notre pays fait l'objet d'une mauvaise gouvernance chronique. Il y a le non-respect des textes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une ambassadrice qui en a parlé, l'ambassadrice du Canada. Donc, voilà. Maintenant, compte tenu de tout cela, ces aspects, le Premier ministre a beau effectuer une visite pour, disons, encourager ou rassurer les opérateurs économiques, mais tant que les piliers que je viens de vous citer poseront problème, messieurs les journalistes, on ne doit pas s'attendre à une amélioration du climat des affaires en RDC.
Alors avant de poursuivre avec le débat, je vous invite à écouter Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo, qui s'exprime sur d'autres aspects du mémorandum que les opérateurs économiques ont adressé au gouvernement central. Ses propos sont recueillis par Daniel Stambizoni.
Un autre secteur touché de plein fouet par votre décret, désormais célèbre, est le secteur bancaire. Et pourtant, les avantages accordés au secteur bancaire avaient pour finalité de résoudre le problème de la sous-bancarisation du pays et l'insuffisance des financements pour les PME locales, notamment à l'intérieur du pays. Un autre secteur, gros pourvoyeur de recettes de l'État, qui s'estime asphyxié le secteur du tabac, qui a subi une augmentation de 100% de sa fiscalité. Par ailleurs, alors que notre pays, à travers les 5 chantiers, cherche à se doter des routes et des chemins de fer, le secteur aérien reste encore le seul moyen efficace pour le déplacement des personnes et des biens. Malheureusement, ce secteur est victime d'un dysfonctionnement grave qui se traduit par la prolifération des centres de décision, avec comme conséquence une multiplicité d'intervenants, de taxes et de redevances. Ce secteur risque de disparaître. En plus de cela, il faut relever les préoccupations en rapport avec la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne. Cette situation est occasionnée par l'état dégradé des pistes d'atterrissage et la gestion de l'environnement physique des infrastructures aéroportuaires. Un sujet qui nous tient à cœur est celui des infrastructures. L'AFEC, tout comme elle avait applaudi la signature du contrat sino-congolais pour la construction des routes et des chemins de fer, l'AFEC avait appuyé la création du FONER afin de maintenir les routes indispensables à nos activités. On nous avait promis un partenariat total. Hélas, rien ne s'est concrétisé. Ni le nombre de nos représentants au conseil d'administration, ni le contrôle de l'affectation des fonds, ni l'accès au marché d'entretien des routes et de la sous-traitance, ni le transfert de connaissances dans le cadre des missions d'études de contrôle.
Alors, François Zécouillé, tout à l'heure, Michel Soumoué a posé une série de questions. Quel climat, quelle affaire, avec quel entrepreneur, avec comme l'impression que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent?
Oui, c'est vrai, très malheureusement pour notre pays. Et malheureusement, ceux qui s'enrichissent se réfugient parmi les personnes qui ne sont même pas fiscalisées. Avant cette intervention d'Albert Yuma, qui est encore intervenu il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de février, où il avait reçu le ministre des Finances à la FEC, et où il avait décrié le fait qu'il n'y a que 3000 entreprises congolaises qui participent à plus de 110% dans le paiement du fisc. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, par exemple, quand on se promène à travers la ville de Kinshasa, on trouve des projets immobiliers immenses. Mais quand on se demande d'où vient cet argent, on ne sait pas avoir des réponses. Albert vient de vous dire un certain nombre de choses, par exemple. Vous trouvez normal qu'on... C'est vrai, les tabacs nuisent à la santé, mais ça contribue quand même en termes des emplois. Les citoyens doivent se décider et dire « je fume ou je ne fume pas ». Moi, je ne suis pas un fumeur, mais je ne peux pas pour autant dire qu'on faut tuer l'entreprise tabacicole. Les dysfonctionnements du point de vue aérien et même pour de sécurité et de sûreté de la navigation. Quand je voyage à travers les pays ou à l'extérieur, chaque fois je paye soit 10 dollars pour les vols internes, soit 50 dollars pour l'extérieur. Mais où va l'argent parce que l'état de nos aéroports est piteux. L'aéroport de Goma a été attaqué par les larves depuis 2002. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas plus de 2 km qui ont été réfectionnés depuis tout ce temps. Où va tout cet argent-là et revient sous forme d'une infrastructure avec les fonds. Bien évidemment, il faut quand même que les entreprises qui payent puissent contrôler, mais aussi puissent en profiter. Les travaux se font, mais on ne sait pas à qui on attribue les marchés. À quoi finalement aura servi la contribution du secteur privé dans ces efforts, au moment où ils ne se retrouvent pas, ni en termes de traçabilité des recettes, ni en termes des marchés qu'ils peuvent bénéficier. Donc vous vous rendez compte que il y a effectivement une certaine mafia qui est organisée et il y a quelques individus qui s'enrichissent au détriment de l'économie nationale. Donc on estime, quand on a parlé récemment de la loi sur la passation de marché, tout le monde a applaudi, j'étais dans votre studio ici pour vous dire que c'est une très bonne chose. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Parce que nous faisons une évolution en termes législatifs légaux, mais en termes de pratique, nous sommes en train de reculer. Parce qu'on devait quand même arriver aujourd'hui à faire des véritables concours de compétition pour les entreprises qui doivent solutionner pour le marché public. Mais nous continuons encore à avoir des marchés de gré à gré, ou alors des marchés à soumission libre, où il y a des camouflages, où on recrute des gens, on vous dit que voilà, vous soumissionnez pour tel montant, tel autre, et finalement, ce n'est plus la transparence qu'a voulu la loi en termes des marchés de passation. J'ai apprécié l'introduction de mon collègue et ami Tati Sungani, qui a défini effectivement les différents acteurs de l'économie. Il y a l'État, les ménages et les entreprises. Aujourd'hui, en termes de l'État, par exemple, parce que la déficience que l'État congolais connaît en matière de mobilisation des recettes n'est pas simplement liée à la corruption, c'est aussi lié en termes des moyens que l'État met en place pour que ces agents soient dans des conditions techniques, matérielles et morales pour pouvoir travailler.
C'est vous, c'est un cas. Je suis malheureusement déformé par les métiers. Je peux vous citer les cas de ces fermiers où le code minier avait prévu que les droits superficiels annuels, c'est les montants que l'entreprise paye en termes de superficie occupée, devraient être gérés par le cadastre minier et rétrocédés au service chargé de l'administration du code minier, en termes de 50% pour le cadastre minier et 50% pour l'administration des mines. Mais aujourd'hui, l'État a repris ces fonds et les met dans une caisse de trésor public qui est en fourre-tout, et finalement, on ne rétrocède pas. Les agents de l'État qui doivent aller contrôler les entreprises minières sont obligés d'être payés par les entreprises en termes de frais d'émission, de voyage et de séjour. Comment vous pouvez contrôler correctement quelqu'un qui vous paye? Donc vous vous rendez compte que l'État, tout en criant qu'il y a des problèmes, parce que j'ai entendu le point de vue du ministre de la Justice qui dit que les corrupteurs sont les entreprises, mais quel mécanisme le ministère de la Justice a mis en œuvre pour contrôler ces entreprises? C'est ce que je viens de vous dire, au moins pour parler de ce terminé. Donc, on ne peut pas continuer à crier tout le temps à ces problèmes, mais il faut que l'État se dote de moyens et les entreprises sont là pour les soutenir. Ce n'est pas une condamnation de l'État, mais nous disons que les efforts doivent être fournis davantage dans l'humain. L'homme doit être placé au centre de l'économie pour que l'économie congolaise aille de l'avant, tant dans le secteur public et privé, tant dans le secteur étatique que dans la société entière, pour qu'on puisse tirer les maximums de profit des efforts de la nation.
Michel Soumoué, il y a cet auditeur Audrey Iringue Sangwa de Bukavu Sud-Kivu qui dit « Le climat des affaires en RDC est désagréable à cause de la multiplicité des taxes identiques portant des nominations différentes. Le cas le plus remarquable est celui de la division de la culture et art. Et on ne sait pas où ils orientent cet argent. On nous parle des taxes pour la promotion de l'art. Je me demande quel artiste en a profité. »
Vous savez, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut, c'est pas l'heure de faire de l'analyse scientifique. Donc là, alors que la vérité est en face de nous, on va la contourner avec des concepts trop compliqués. Je crois que le problème qu'il y a dans ce pays, j'ai posé la question tout à l'heure, quand on parle du climat, de l'amélioration du climat des affaires, il ne faudrait pas qu'il y ait des propos, qu'il y ait des malentendus. J'ai l'impression que chacun a sa façon de définir les affaires. J'ai l'impression qu'il y a ce qu'on appelle affaires ici et affaires là-bas. C'est pas tout la même chose. C'est vrai que nous parlons de l'activité économique. Quand moi je parle d'affaires, je parle d'activité économique. Mais il y en a qui savent que le secteur politique est un secteur des affaires terribles où les gens parlent juste scandaleusement. Je reviens au problème des taxes. Je pense, à mon humble avis, et on dit du Congo que c'est un paradis fiscal. Si on veut parler, si on veut considérer le problème de la fiscalité comme étant le principal goulot d'établissement des affaires, ce n'est pas vraiment mon point de vue, parce que je pense que lorsque je compare le système de taxation au Congo, le système de taxation des pays comme les États-Unis d'Amérique, comme Luxembourg, comme d'autres pays qui sont des pays développés aujourd'hui, on se rend compte effectivement que dans ce pays, le Congo est un état de paradis fiscal, parce que non seulement il n'y a pas plus de 2% des contribuables qui payent l'impôt, parce que l'impôt n'est payé en réalité que par une petite portion, une portion moins de 2% de ce qui devrait être réellement du contribuable, paye l'impôt. Et ils payent ce qu'ils veulent, la réalité c'est aussi ça. Ceux qui payent l'impôt, c'est eux qui déclarent qu'ils veulent payer et qui le payent quand ils le veulent. Pourquoi c'est trois systèmes qui sont très compliqués? Parce que ça plaît à quelqu'un, à quelques systèmes quelque part, c'est organisé. On accepte, on tolère cela, parce que à ce moment-là, on n'a pas le temps de réfléchir sur des questions profondes. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller déjà du côté de la fiscalité pour dire que c'est là, si on améliore là-bas, c'est fini, parce qu'on n'améliorera jamais ce côté-là, tant qu'on ne sait pas définir ce que c'est que les affaires en question, et quelles affaires il faut favoriser, et les affaires pour qui, et les affaires par qui. Ce sont des questions pertinentes qu'il faut qu'on se pose. Pour qui le gouvernement veut-il que les affaires prospèrent, que le climat s'améliore? Mon prédécesseur a défini le climat des affaires en parlant de l'environnement, c'est bien bon, mais il faut que, en termes plus simples, moins savants, ce sont des conditions de l'exercice, de la création et du développement des activités économiques. Ces conditions n'existent pas au Congo, malheureusement. On va améliorer ce qui n'existe pas, ça passe ça. Il faut commencer par les créer. Et la condition première, il faut d'abord faire la hiérarchie des choses. La première condition, c'est que le gouvernement devrait s'employer pour qu'il facilite la création d'une entreprise et la condition pour la création d'une entreprise, la création d'une affaire, la première condition sur les points, c'est le crédit. Il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'entreprise, c'est clair. Donc ça doit être la première condition. Elle n'existe pas au Congo. Vous allez améliorer quoi? Vous allez améliorer les affaires des étrangers qui viennent au Congo? Il ne faut pas qu'on y fasse plus. On vous dit que l'entrepreneuriat au Congo est dominé aujourd'hui en majorité par le secteur étranger. C'est pas normal. Pourquoi le Congolais, 99% de ce qui devrait être l'économie nationale, vous pensez qu'on appelle l'économie informelle. L'économie informelle, tout ce qu'on peut faire, ne paye pas l'impôt, c'est clair. Donc, on fait des choses qui sont quand même vraies. Ils sont des débrouillards. Mais pourquoi est-ce qu'ils se débrouillent? Ça veut dire que de construire des affaires pour eux, ça veut dire donner-leur les conditions pour qu'ils sortent de la débrouillardise, qu'ils sortent de l'informel, ou qu'ils deviennent des structures organisées informelles capables de payer l'impôt. Pourquoi on ne veut pas qu'ils deviennent formels? Parce qu'ils en deviennent formels, ils vont payer l'impôt. Pourquoi on les maintient dans cette sorte de ghetto? Il faut qu'ils sortent de là. C'est ça la première conséquence. Autrement, si ce n'est pas cela, ce qu'on est en train de faire, c'est, on met de la crème sur
Merci,
Nicolas. Ils n'ont rien à voir avec l'économie nationale, ils ne vont pas amener un impact pour le développement de l'économie nationale.
Merci, Nicolas.
Je pense que le problème de la fiscalité au Congo ne devrait pas encore se poser à ce moment-ci, à partir du moment où ceux qui devraient payer l'impôt n'existent pas encore.
Merci.
Il faudrait qu'on les stimule, il faut qu'on les crée, il faut qu'on les aide à exister à ce pays.
Merci, Takin Sondani. La RDC est un paradis fiscal, il faut créer ceux qui doivent payer l'impôt. J'ai un avis contraire, bien sûr. Je pense que le secteur des impôts, tout comme l'ensemble du système d'ailleurs de l'État, est complètement gangréné. Affirmer qu'on ne peut pas commencer par la fiscalité, je ne suis pas de cet avis-là. Cependant, je suis d'accord quand on affirme que ceux qui, ce qu'on appelle assiette, donc ceux qui devraient payer l'impôt, ne le payent pas. Prenons un exemple simple. Lorsque un ministre qui entre au gouvernement avec peut-être quelques milliers de dollars et en sort avec des millions de spams, de dollars, d'abord il y a un problème qui se pose. D'où tire-t-il cet argent, cet enrichissement-là? Ensuite, vous savez qu'on ne peut pas s'enrichir au détriment de l'État. Toute richesse qui est créée doit subir, n'est-ce pas, une taxation quelconque. Les appellations sont nombreuses et diverses et diversifiées. Donc vous faites votre bénéfice, vous payez un impôt sur le bénéfice, vous avez un salaire, vous payez votre impôt professionnel sur la rémunération, vous importez un véhicule, vous êtes dans le domaine minier et ainsi de suite. Maintenant, tout l'investissement qui est créé par exemple par l'oligarchie au pouvoir actuellement, est-ce que l'État a les moyens de récupérer cet argent-là? Si ce n'est pas le cas, eh bien, l'État s'appauvrit. Bon, maintenant, quant au crédit, c'est vrai, nous avons une économie qui ne fait pas, nous avons un environnement qui ne fait pas crédit à l'économie. Mais il faut aussi saluer le dynamisme des Congolais. Malheureusement, les Congolais qui ont des petites affaires croulent sous les poids des taxes. Il faut le dire, on ne peut pas ignorer cette fiscalité qui est désastreuse, qui tue les entreprises privées appartenant à des Congolais tout comme à des étrangers. Maintenant, on a l'impression que ce sont des étrangers qui sont en quelque sorte privilégiés au détriment des populations congolaises. Donc il est important que l'on puisse mettre l'accent sur la gouvernance. Il y a un déficit chronique de gouvernance. Le problème qui est posé aujourd'hui, finalement, c'est un problème de gouvernance. Parce que quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit le problème qui est posé, on met toujours à l'index la responsabilité du gouvernement. Au niveau des taxes, au niveau de la surtaxe, au niveau de l'encadrement du secteur informel, au niveau du crédit à l'économie, au niveau de l'octroi des permis d'exploitation, au niveau de tout, on se rend compte qu'effectivement, l'État a un rôle majeur. Vous savez, en économie, il est fait mention du rôle, disons, de la volonté du gouvernement. La politique du gouvernement doit être volontariste. Est-ce que le gouvernement a envie d'améliorer le climat des affaires? Par-ci, par-là, on perçoit quelques signes. Oh, oui, la ratification du traité de l'OADA, c'est une bonne chose. On nous parle de tolérance zéro, encore que les gros poissons ne sont toujours pas sanctionnés. Au lieu de sanctionner les ministres, les PDG, on sanctionne les petits syndicalistes dans les entreprises. Mais finalement, on se rend compte que l'État ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est-à-dire aller dans le sens voulu par, disons, les
les entreprises, notamment privées. Vous suivez, par exemple, le discours que prononce le président de la Fédération des entreprises. Mais ce sont des vœux pieux. Ils stigmatisent ces problèmes depuis longtemps. Quelles sont les solutions qui ont été apportées au cas par cas aux problèmes posés par la Fédération des entreprises du Congo? Mais aucune. Mais lorsque le Premier ministre effectue une visite que j'appellerais de courtoisie à la FEC, mais c'est une bonne chose. Mais on n'a pas besoin de visites. On a besoin de faits. On a besoin de décisions. On a besoin que le gouvernement dise, voilà, dans tel secteur, on a mis de l'ordre. À partir de maintenant, hier c'était A, maintenant c'est B. Or, il me semble que tout ça n'est pas fait. Je reviens donc à ce que j'ai dit au début de mon propos. Il y a un problème de gouvernance qui se pose. Regardez notre justice. Elle ne fonctionne pas. Au lieu de résoudre le problème de la justice, on recrute 1000 nouveaux magistrats qui demain seront d'autres corrompus. Donc on vient d'ajouter 1000 corrompus à l'appareil judiciaire.
C'est ça trop fort.
Je pense que lorsqu'on veut améliorer le climat des affaires, lorsqu'on a cette volonté de faire, il y a, je vous ai parlé des piliers, il y a des piliers, n'est-ce pas, sur lesquels, ou des leviers, sur lesquels on peut agir. Donc, vous avez des piliers aujourd'hui, messieurs les journalistes. Lorsqu'on observe les services percepteurs d'impôts, qui ont 2, 3, 4 mois, je ne les défends pas, mais qui ont plusieurs mois d'arriéré de salaire, peut-on en ce moment-là considérer qu'ils sont à l'abri de la corruption? Moi, je ne le crois pas. Donc, je pense que le gouvernement, malheureusement, c'est toujours le gouvernement qui a cette responsabilité-là. Peut-être que le gouvernement a montré des signes, mais ces signes et cette volonté me paraît assez dérisoire, vu l'ampleur du mal.
François Zécouillé, finalement, que faut-il aborder comme solution pour que réellement le climat des affaires soit assaini? Il y a des auditeurs qui ont leur point de vue. Adolphe Kilomba Soumaïli, qui nous suit du Costa Rica, a dit l'assainissement du climat des affaires en RDC passera par l'installation des guichets uniques pour le paiement des taxes dues au trésor public. Il est temps de mettre fin à ces transactions financières entre les mains des agents de l'administration publique qui ternissent l'image du pays. Bien sûr, il faudra les payer.
Oui, il a raison en partie, mais on dit toujours « ventre affamé n'a point d'oreille ». Et moi, je pense, je soutiens que plus l'État va améliorer ses services à l'économie en assurant une meilleure prise en charge de ses agents, plus ses agents vont lui rendre les services qu'il attend de lui. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de traçabilité. Je vais vous donner un exemple illustratif. Une compagnie aérienne déclare avoir payé tel montant à une entreprise de catering, okay, qui lui fait la nourriture pour les passagers. La société de catering déclare autre chose au fisc. La société qui fournit de la viande et du pain à la société de catering lui déclare aussi une autre chose. L'éleveur qui a fourni les chèvres ou les vaches qui ont nourri, il y a moyen quand même de tracer. S'il y a un minimum de technologie qui permette à ce que l'on puisse vérifier ce que chaque entreprise a déclaré, on peut faire des recoupements pour savoir qui a menti et attraper les délinquants. Mais tant que l'agent, lui, n'est pas motivé, bien évidemment, il se soumettra pas à ces deux. Ce n'est pas que ce soit, il faut que ce soit miracle. Mais aussi, bien évidemment, il faut que les entreprises collaborent sincèrement avec l'État en payant correctement ce qu'ils doivent. Mais le problème, c'est un problème de motivation. Pourquoi vais-je payer les impôts dès lors que je me rends compte que ça enrichit quelques individus et qu'on se rend compte que rien ne s'améliore dans les vies quotidiennes de la population et même l'infrastructure dans laquelle moi, opérateur économique, j'agis, ne s'améliore pas? C'est un problème d'éthique collective de cette maladie dans son dernier discours. Il y a un problème de moralisation de l'économie nationale. Mais cette moralisation, comme l'a dit Patrice Sungani, doit commencer au niveau du sommet, c'est ce qu'on attend. C'est l'État, quand il a reçu les 1000 magistrats ou 1500, je ne sais pas encore le nombre, il a dit, voilà, vous devez être un traumatisme permanent pour les criminels et une consolation pour les faibles. Qui sont les criminels dans notre économie? Il faut qu'on les dise. C'est souvent des personnes, malheureusement, qui sont investies d'un pouvoir public, soit à un terme politique, législatif, ou exécutif, ou judiciaire. Donc, c'est un effort qui doit être fourni par toute la communauté, mais le chef doit frapper fort pour que tout le monde se rende compte que
les choses ont commencé à changer. Des beaux discours, ce sont des bonnes choses, ça peut changer, mais je crois que les actes pressent beaucoup mieux que par les discours.
Michel Soumoué, il faut moraliser l'économie nationale. Il y a cet auditeur Matoumaïni Franklin de Bukavu Sud-Kivu qui dit « Pour améliorer le climat des affaires en RDC, il faut appliquer la loi qui interdit aux hommes politiques de se lancer aussi dans ce secteur et en plus bien appliquer la loi aux opérateurs qui doivent donner à César ce qui lui revient. » Bref, réaction, je vous en prie.
C'est parfait. Vous savez, on peut dire que je suis quelqu'un de petit malentendu pour rien. Moi, je dis, je suis d'accord en disant que parler de l'amélioration du climat des affaires suppose au préalable de toutes ces affaires-là existent. Je soutiens que, au Congo, 99% de ceux qui devraient s'appeler affaires sombrent dans l'informel, dans le ghetto, dans l'inconnu, dans le saisissable. C'est ça qu'il faut appeler affaire. Le reste que vous appelez affaire n'est en réalité que spoliation des ressources naturelles, des ressources humaines, de ce que vous voyez. Regardez un exemple aussi simple que celui-là. Quel est le salaire d'un citoyen congolais qui travaille dans une entreprise? Est-ce que ce salaire n'est-il pas une spoliation plus récente des ressources humaines qui a de la valeur partout ailleurs dans le monde? Je dis, il faut commencer par créer les affaires avant de parler du discours de l'amélioration de ce climat. À moins qu'on me dise, comme il aurait d'abord opéré le climat de la création des affaires, pour que ça soit effectivement ce fait insustable. Je m'appelle et je sais que je dis que parler de la fiscalité comme étant le principal boulot des temps vraiment, de l'économie nationale, comme étant un point focal sur lequel il faut que tout le monde s'attarde et croire tout d'un coup que si aujourd'hui on supprime la corruption ou peut-être la non-fiscalisation, cela va améliorer les affaires. Vous allez risquer de créer des lois pour des choses qui n'existent pas. Le fantôme, ça ne viendra jamais.
Merci.
Les lois existent dans ce pays. Il faut les appliquer. On ne les applique pas parce que ce sur quoi elles doivent s'appliquer n'existe pas. C'est aussi simple que ça.
Merci, Michel Soumoué. Takine Songani, quelles sont les solutions envisageables pour améliorer ce climat des affaires finalement?
Malheureusement, je suis le regret de dire qu'elles sont d'abord politiques. Parce que il est clair que l'impulsion doit venir de l'État, du gouvernement, du pouvoir exécutif. Et donc cela pose un problème de choix des personnes. Donc lorsque les personnes qui doivent animer les structures de l'État, impulser des décisions importantes qui vont dans le sens pas seulement de l'amélioration du climat des affaires, mais dans le sens de la prise en charge de l'avenir collectif d'un pays, d'une nation, eh bien je suis au regret de dire qu'il faut des hommes capables de prendre des décisions et de les assumer. Donc, vous savez, j'aime bien cette phrase que disait l'intendant général des finances du roi Soleil, le roi Louis XIV, qui s'appelait Fouquet. Il disait au roi, sire, faites-moi une bonne politique et je vous ferai des bonnes finances. Donc, les deux notions sont intimement liées, mais je crois que le politique précède l'économie. Donc, les mauvaises décisions, les mauvais choix politiques ont une incidence claire, nette, réelle sur le fonctionnement général de l'économie. Donc, il est important qu'à mon avis, nous puissions nous doter d'institutions politiques sérieuses où la gouvernance ne soit pas simplement un slogan, mais une réalité.
François Zécouillet, nous abordons pratiquement la dernière partie de l'émission qui concerne les conclusions en 30 secondes, votre conclusion.
Oui, en 30 secondes, première chose, je crois que nous devons éviter les connivences entre les politiques et les affaires. Éviter que les politiciens et les indépendants soient en politique. Deuxième chose, nous devons créer des banques de développement pour encourager la création d'entreprises au pays et améliorer les entreprises existantes. Cela aura une conséquence, c'est que ça va élargir l'assiette fiscale au pays et permettra au gouvernement de réduire la pression fiscale parce qu'on dit trop d'impôts, plus d'impôts.
Michel Soumoué, en 30 secondes également, votre conclusion.
Il faut un bon leadership, ça c'est important. Absolument un bon leadership, un leadership lucide qui sait qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'à faire. Il faut la vérité, il faut l'amour. Qu'est-ce qu'il faut pour ce pays? Absolument rien que ça. Si nous avons la capacité d'être vrais, et si les hommes qui sont au pouvoir sont des hommes vrais, et qui tiennent des discours vrais, et qui sont vrais, sincères avec eux-mêmes, ils vont changer ce pays un peu de temps. Ils ont besoin de dessins scientifiques trop compliqués pour ça.
Merci, Takine Soungani. Votre conclusion, 30 secondes.
Oui, mais je reviens sur ce que j'ai dit. Mon prédécesseur a parlé de leadership. Moi, je parle des acteurs politiques, des décideurs, donc de ceux qui ont la charge de conduire l'État.
c'est à eux qu'il appartient de prendre des bonnes décisions. Donc, cela pose le problème de la qualité de nos dirigeants. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, ça pose un petit peu de problème.
Donc, la solution pour vous reste politique.
Absolument.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Guy Maté qui était à la réalisation, Ibi Martis à la mise en onde, Samuel Kachak qui était à la préparation, Peli Kipela Mondo qui était à la supervision rédactionnelle, Patrick Kiasongwa à la coordination technique, Alain Grand-Mouchige à la présentation. Restez branchés sur Radio Congo. Thank you.